Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi. Réalisée par Vivian Lecuivre, à la technique ce matin, c'est Dalia. Des dynasties politiques au pouvoir depuis des décennies, des institutions militaires toutes puissantes, des élections verrouillées. En Asie du Sud, les jeunes se battent aujourd'hui pour des systèmes plus ouverts et pluralistes, mais la démocratie reste confisquée. Nous parlerons demain du Pakistan, où les militaires restent maîtres du jeu. Mercredi, de la monarchie intouchable en Thaïlande. Jeudi, des Philippines, une affaire de famille. Nous commençons en Birmanie, avec la fuite en avant de la junte qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État il y a 3 ans.
L'armée, nos ennemis, je les déteste à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Je n'ai pas les mots.
Ils ont tué tellement d'innocents, détruit tellement de maisons. On ne leur pardonnera jamais.
Nous n'attaquons pas avec haine dans cette guerre. Nous combattons seulement la dictature militaire. Les soldats ne sont donc pas coupables, mais ils doivent décider s'ils veulent mourir pour les dictateurs ou rejoindre le peuple de Birmanie et les forces de défense du peuple.
La junte est puissante, mais nous sommes tous unis. Nous voulons une démocratie fédérale. Nous nous battons pour le futur, pour nos enfants. Et nous nous battrons jusqu'à ce que les militaires tombent.
Ils se battent contre le régime militaire birman, mais celui-ci n'a pas dit son dernier mot. Face au succès de plusieurs groupes rebelles sur le terrain, l'armée a décidé de frapper un grand coup et de lancer une campagne de conscription. Le 10 février, elle annonçait un service obligatoire de 2 ans pour les hommes et pour les femmes. Alors depuis cette date, dans les grandes villes du Myanmar, les bureaux qui délivrent les passeports sont pris d'assaut par la foule. 5000 personnes par jour pour la seule ville de Mandalay dans le sud-centre du pays. D'après le journal birman Irrawaddy, cité par Courrier International, des heures et des heures d'attente, parfois des bousculades et des morts pour obtenir le document qui permettra de quitter le pays à ceux qui ne l'avaient pas déjà fait en 3 années de guerre. Il y a ceux qui prendront la route de l'exil et aussi celles et ceux qui choisiront de rejoindre le maquis, ces forces de défense du peuple qui ont progressivement joint leurs efforts à ceux de guérilla ethnique ancienne, si bien que dans les montagnes birmanes, sur les hauts plateaux mais aussi le long des principales routes du pays. L'armée birmane est aujourd'hui en difficulté depuis le lancement en octobre de l'opération dite 1027, offensive conjointe de plusieurs groupes rebelles. Alors ces groupes ont-ils les mêmes aspirations, un même élan vers la démocratie, terme qu'on retrouve dans les mots des civils qui ont pris les armes. Nous en parlons ce matin avec Guillaume Delangre. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en ligne depuis Bangkok en Thaïlande où il est 17h à peu près. Vous êtes ancien conseiller à l'énergie du gouvernement civil birman. Vous êtes doctorant en géographie de l'environnement à l'université d'Oxford. Nous recevons à l'instant dans ce studio Bénédicte Braque de la Perrière, anthropologue au CNRS que l'on va laisser tranquillement s'installer pour nous rejoindre dans la conversation. Guillaume Delangre, d'abord il me paraît indispensable, 3 ans après le coup d'État, de commencer par une sorte de cartographie de l'emprise de la junte militaire dans le pays, des territoires qui ont été conquis ou repris par ailleurs par les groupes rebelles quels qu'ils soient. Si l'armée s'accroche au pouvoir, puisque c'est le titre de cette émission, quels pans de ce pouvoir sont en train de lui glisser des mains depuis l'offensive 1027 qui a commencé fin octobre?
D'abord, merci de me recevoir. L'influence de l'armée birmane s'effrite sur 2 pans principaux, je dirais. D'une part, dans le cœur de la majorité ethnique Bamar, dans le centre du pays, donc une grande zone de plaine fluviale. C'est là qu'on voit ces forces de défense du peuple émerger depuis la fin de la résistance non violente à peu près mi-2021. Donc ça, c'est la grande nouveauté de ce conflit précis. La deuxième nouveauté, c'est un effritement majeur de la puissance de l'armée birmane dans toutes les régions ethniques qui cerne cette zone fluviale de plaine, donc des zones plus montagneuses dans lesquelles de nombreuses minorités ethniques se battent depuis, pour certaines, 70 ans pour avoir le respect de leurs droits et le respect de leur territoire. Et elles montent en puissance depuis quelques mois d'une manière inédite.
Les régions, les zones qui sont en résistance aujourd'hui, est-ce qu'elles le sont depuis le début de la guerre ou certaines ont pris les armes plus récemment ?
Il y a eu, je dirais, trois phases. Il y a eu la première phase de résistance non violente qui était de février à, je dirais, l'été 2021. Ensuite, on a eu une deuxième phase où il y a formation des forces de défense du peuple, sorte de maquis qui prolifèrent à travers tout le pays d'un coup. Mais pendant ce temps, les armées ethniques se tiennent relativement tranquilles. Elles s'arment, elles se préparent. Ce qui se passe depuis le 27 octobre, d'où le nom 10-27, c'est tout d'un coup ces armées ethniques qui entrent en scène et qui amènent la guerre avec tous leurs moyens, bien supérieurs aux moyens des forces de défense du peuple, auprès de la junte. Et donc là, on voit des conflits plus violents et on voit des avancées majeures de ces armées ethniques, souvent en coopération avec les forces de défense du peuple.
Dans les territoires qui, pendant très longtemps ou plus longtemps, ont été acquis à la cause de l'armée et qui sont entrés en résistance, et notamment dans ces plaines du centre que vous venez de citer, est-ce que l'armée birmane a la même stratégie de terre brûlée que dans les régions qui lui sont plus historiquement hostiles, Guillaume de Langres ?
Oui, d'ailleurs, c'est ça qui a choqué beaucoup de Birmans. Parce qu'en réalité, la stratégie de la terre brûlée mise en œuvre par l'armée birmane contre l'ensemble du pays aujourd'hui, elle la pratique depuis des décennies contre les minorités ethniques. Ce qui choque particulièrement beaucoup de jeunes dans le centre du pays, de l'ethnie majoritaire Bamar, c'est que maintenant, ils vivent ce que les minorités ethniques ont vécu pendant des décennies. Maintenant, ces stratégies-là, ils brûlent les villages, ils exécutent les civils de manière sommaire, beaucoup de punitions collectives, des choses comme ça. Tout ça, maintenant, se retrouve à travers tout le pays. Après, je voudrais quand même dire que les grandes villes sont relativement stables. C'est un peu business as usual en ce moment à Rangoon, à Naypyidaw, à Mandalay et dans certaines autres grandes villes du pays.
Bénédicte Braque de La Perrière, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes anthropologue au CNRS, membre du laboratoire Asie du Sud-Est. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume de Langres, vous étiez en Birmanie en décembre et janvier encore. À Rangoon, c'est ça ? On peut encore se rendre dans certaines villes birmanes sans problème ?
Oui, l'ambassade délivre toujours des visas de tourisme. C'est avec un visa de tourisme que je me suis rendue à Rangoon. Et effectivement, dans une certaine mesure, on peut dire business as usual, mais je mettrai des bémols à ça. Le centre de Rangoon est fantomatique, vidé de toute sa vie habituelle. Il n'y a pas de tourisme, même s'il délivre des visas de tourisme, il n'y a pas de tourisme du tout. Toutes les institutions, justement, ce qui fait la vie d'une grande capitale, sont fermées. Mais il y a des quartiers d'affaires, et notamment des investissements qui se poursuivent. On voit des tours qui continuent à monter. On voit très clairement les investissements chinois qui continuent à se développer. Dans une certaine mesure, on peut dire business as usual, mais on peut dire aussi que la ville est vidée de son cœur, de sa vie, elle est vidée concrètement par le départ de sa jeunesse qui part par milliers, 40 000 par mois.
Et un exil qui va peut-être encore augmenter.
Absolument.
Et s'accélérer avec le lancement de la conscription de l'armée birmane dont on va parler. Bénédicte Braque de La Perrière, quand vous étiez à Rangoon, est-ce que vous entendiez parler dans les discussions, est-ce que cette opération, cette offensive 10-27 lancée par certains groupes, notamment des armées ethniques dans le nord du pays, ça a commencé près de la frontière chinoise, dans l'état du nord Shan, et puis ensuite ça a fait boule de neige, est-ce que c'était dans les discussions de ceux que vous avez rencontrés à Rangoon, où la capitale est quand même un peu dans une sorte de bulle et ne sait pas exactement ce qui se passe.
Non, ils savent très bien ce qui se passe. Ils n'en parlent pas forcément ouvertement, parce qu'à Rangoon, on a quand même deux types de populations. On a la population qui marche pour le gouvernement, contrainte et forcée dans une certaine mesure, mais... Il y a aussi la population historique, donc celle qui tient les petits magasins, les choses qui continuent à fonctionner, qui se garde bien de se prononcer, mais dont on connaît quand même l'opinion. Et puis alors, il y a ces nouvelles classes d'affairistes liées au pouvoir, qui fait que dans certains endroits, on n'en parle pas ouvertement, mais tout le monde est au courant, c'est évident.
Donc une vie quelque peu ralentie à Rangoon, mais qui reste à peu près normale dans les apparences en tout cas, alors que dans de nombreux villages de Birmanie, là où les forces dites rebelles contre l'armée birmane ont repris progressivement du terrain, des familles découvrent leurs maisons brûlées. Cette famille par exemple à Tantlang, capitale de la région Chine, libérée il y a plusieurs semaines déjà par les rebelles.
Voilà notre maison. Elle a complètement brûlé. Il ne reste que les fondations de la nouvelle maison qu'on était en train de construire. Tout le reste est détruit. C'est l'endroit où nous vivions heureux, avec nos enfants, notre famille et nos amis. Voir cette maison et la terre où nous vivions réduits en cendres, ça me procure une douleur immense.
Guillaume Delangre, comment expliquer aujourd'hui ces scènes multiples de familles qui retournent dans des villages qu'ils avaient quittés, dans des zones qui étaient prises par la guerre, par les armes, par le feu, qui aujourd'hui peuvent progressivement rentrer chez elles parce que des groupes rebelles ont repris le contrôle de ces territoires? Comment expliquer cette offensive 10-27, l'armée de libération nationale Tang, l'armée d'Arakan, l'armée de l'Alliance démocratique nationale du Myanmar, qui se sont réunies sous le nom d'Alliance de la Fraternité? Est-ce que c'est quelque chose d'inédit? Est-ce qu'il y avait déjà eu coopération opérationnelle entre armées ethniques jusque-là?
Il y avait déjà eu des exemples de coopération. Il y avait eu des alliances avant 10-27. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur, c'est le fait qu'elles se sont coordonnées à un niveau opérationnel. C'est qu'elles travaillent ensemble, elles partagent les armes. On a eu un exemple notamment donc dans le Nord Shan, entre les Tang, le peuple Palang et l'autre armée MNDAA. Ces deux groupes, à un moment, il y a eu un cessez-le-feu négocié par la Chine. L'un des groupes a signé l'accord, l'autre non. Et du coup, les soldats d'un groupe ont juste changé d'uniforme et sont passés chez l'autre. C'est des choses comme ça qui se passaient déjà avant, mais qui aujourd'hui se produisent de manière plus régulière, à une beaucoup plus grande ampleur. C'est aussi qu'on voit que les armées ethniques ont l'équipement, elles ont accès à des armes, certaines produisent des armes. Ce qu'on voit, c'est que les forces de défense du peuple aussi rejoignent ces armées ethniques et apportent un nombre d'hommes et de femmes très important. Qui renforce. Donc en fait, on a une convergence à la fois des moyens et des hommes pour faire monter en puissance cette offensive.
Donc de plus en plus d'hommes et de moyens pour les forces de défense du peuple et qui viennent abonder ces armées ethniques qui leur préexistaient. On estime aujourd'hui à 65 000, c'est ça, 65 000 combattants, les forces de défense du peuple, alors que les effectifs de l'armée, eux, auraient tendance à baisser, de l'armée entre guillemets régulière birmane. Là-dessus, Guillaume Delangre, vous avancez des chiffres dans un long article pour la revue Conflit. Je ne sais plus quel chiffre. Vous parlez déjà de 4 à 6 000 soldats birmans qui se sont rendus aux combattants rebelles en 3 mois. D'où tient-on ces chiffres aujourd'hui?
Alors ces chiffres-là viennent de certains chercheurs américains du War College, Zakaria Bouza. C'est effectivement un aspect très surprenant des derniers mois. C'est qu'on voit l'armée birmane, dans de nombreux cas, ne se bat même pas. En fait. Bien sûr, l'armée se bat de manière féroce dans certaines régions, mais il y a aussi beaucoup d'exemples de bases militaires qui juste se rendent, lèvent le drapeau blanc et se rendent et sortent de ces bases en guenilles, maillot du Paris Saint-Germain, tongs, survêtements, et on se demande qu'est-ce qui se passe en interne. Et ce qu'on entend par ailleurs de la part de généraux qui parlent sous couvert d'anonymat, c'est qu'il y a des tensions très fortes à l'intérieur de l'armée, parce que ces images les choquent, il y a un sentiment d'humiliation. Cette armée qui s'est toujours vue comme la seule représentante de l'intérêt national birman se voit rejetée même dans ses fiefs historiques.
C'est vrai, Bénédicte Braque de la Perrière, que l'armée avait réussi à se lier vraiment, les soldats, tous les soldats de l'armée ont depuis longtemps des avantages immenses à s'engager dans l'armée. Est-ce que vous sentez vous aussi peut-être pas encore une défiance, mais des réserves aujourd'hui émises au sein même de l'armée vis-à-vis notamment de son plus haut gradé, du général qui est à l'origine du coup d'État du 23 janvier 2021, donc il y a 3 du février janvier 2021, il y a 3 ans.
Il y a 3 ans, oui. Il y a eu des rumeurs, des appels même, des appels publics à la démission de Mie Online en janvier. Mais apparemment, la situation a été reprise en main récemment. Il y a eu des limogeages à la tête de l'armée, des changements de figure qui équivalent sans doute à une reprise en main. Il fallait faire quelque chose face à cette série de défaites cuisantes tout au long de, donc depuis que l'opération 10-27 a commencé. Ça a été fait et apparemment personne ne bouge dans l'armée pour pousser Mie Online dehors pour le moment. Quant à dire que c'est calme, c'est difficile. Et pour comprendre un peu pourquoi, enfin ces séries de rémission, enfin de groupes militaires qui se rendent tout simplement sans coup férir, il faut aussi comprendre la géographie de cette guerre civile, avec donc le cœur du pays où les combats sont féroces, par contre, la couronne d'armées ethniques sur les territoires desquels l'armée ne peut plus passer, et les postes qui se rendent, ce sont les postes qui sont à la périphérie. Donc, ils sont coupés de leur base, ces gens-là. Ils sont isolés. Et effectivement, dès que ça bouge, eh bien, ils se rendent.
Il y a parfois des petits bataillons, des résidus d'armée qui restent, sur la défensive
isolés.
Et pas du tout à l'offensive. Guillaume Delangue, par ailleurs, cette armée, on commence à comprendre qu'à chaque fois qu'une base militaire, on parle de 150 bases militaires reprises à l'armée par ceux qui mènent l'opération 10-27, l'armée laisse son matériel sur place, n'a pas le temps ou simplement pas les moyens de l'emporter avec elle. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui on peut se demander si l'armée n'est pas en train de complètement être affaibli par cette opération de manière matérielle, tangible?
Je pense qu'il faut distinguer effectivement les deux géographies, c'est-à-dire à la fois le centre, la plaine qui se prête qui est à l'avantage de l'armée. C'est difficile de se battre pour un maquis dans une plaine avec juste quelques arbres, et puis à part ça, c'est très très plat. Et les zones les zones ethniques, les zones plus montagneuses. Effectivement, il y a beaucoup de situations comme ça de soldats qui se rendent en masse et qui laissent derrière eux. Alors bien sûr, les équipements un peu lourds sont sabotés, des choses comme ça. Mais beaucoup d'armes légères sont laissées derrière, beaucoup de munitions sont laissées derrière. Et on voit cela dans les FDP sont absolument remarquables dans leur communication, notamment sur TikTok.
Les forces de défense du peuple qui sont à l'offensive contre l'armée. Oui.
Elle récupère effectivement les FDP beaucoup d'armes qui ensuite sont redistribuées. Les uniformes sont redistribués, les moyens et en plus de ça, les ressources naturelles, bien sûr. Parce qu'au fur et à mesure que les armées ethniques et la résistance, de manière générale, étendent leur contrôle et sur des territoires ethniques, elles prennent également le contrôle de mines d'or, elles prennent le contrôle de certaines mines de ressources naturelles dont la Birmanie abonde. Et ça va également jouer un rôle. Je pense que c'est ce qui va probablement faire durer cette opération dans le temps, parce que maintenant, ces groupes résistants ont des moyens financiers qu'ils n'avaient pas avant.
Et le documentariste Antoine Védéi, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps pour un retour d'eux dans Culture Monde, nous racontait que la grande route, par exemple, qui lie la Turquie à la Chine en passant par la Birmanie, aujourd'hui avait plusieurs, certains tronçons entiers de cette route étaient aujourd'hui contrôlés par les groupes rebelles, ceux qui se battent contre l'armée birmane, et que c'était autant de taxes en moins dans les poches de l'armée, et que financièrement, ça commençait un petit peu à se faire ressentir dans les caisses de l'armée birmane, alors que les groupes rebelles, pour le dire vite, et les mettre tous dans un même sac, entre guillemets, alors qu'ils se distinguent tous entre eux, on en parlera plus en détail, mais eux commencent à avoir davantage de moyens, davantage d'hommes et davantage d'armes. Ils fabriquent leurs propres drones, comme rappellent et comme expliquent les deux responsables de ces armées ethniques, de l'État Shan et aussi des forces de défense du peuple de Mandalay.
Lorsque nous avons commencé notre révolution pour l'autonomie, nous utilisions des armes artisanales, puis nous avons évolué vers des fusils automatiques. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est l'ère des drones. Nous changeons les tactiques de guerre pour les adapter à l'ère moderne.
Nous disons toujours que nous devons faire la guerre sur la base de nos connaissances. Dans cette révolution armée, nous devons faire évoluer cette sagesse. Il n'y a pas que les drones. Nous sommes toujours en train de chercher quel type de technologie serait la plus efficace pour attaquer les militaires.
Guillaume Delangre, il y a ces groupes qui récupèrent les armes, le matériel laissé derrière elles par l'armée birmane, mais qui fabriquent aujourd'hui son propre matériel, ses propres drones notamment, et qui dit très souvent s'inspirer de ce qui se passe en Ukraine. La guerre en Ukraine pour justement construire ces drones et en se disant que ça pouvait faire changer les règles du jeu de la guerre en leur faveur. Guillaume Delangre, est-ce que vous êtes encore avec nous? Bénédicte Braque de La Perrière, sur cette question des drones fabriqués aujourd'hui par les groupes rebelles.
Ils se sont formés sur Internet, ça c'est explicite. Mais de manière générale, je dirais qu'ils s'inspirent effectivement de tout ce qui se passe dans le monde. Ils ne sont pas coupés du monde, ils sont connectés.
Notamment par les satellites d'Elon Musk. Le satellite, je ne sais pas si c'est payant, comment ça se passe, mais j'ai appris ça.
Ils payent très cher apparemment ces abonnements, je ne sais même pas comment ça fonctionne, mais j'ai entendu effectivement une déclaration de ce point de vue-là d'un responsable du NUC disant qu'il payait très cher ses connexions. Mais ils font cet investissement-là pour différentes raisons, mais la première, c'est qu'ils ont besoin d'être connectés, et puis que ce gouvernement du NUG est un gouvernement virtuel qui a besoin de ça pour fonctionner, pour exister.
Le gouvernement du NUG, le gouvernement en exil, le gouvernement d'union nationale qui, en effet, est éparpillé partout sur la planète, pas seulement dans les pays voisins.
C'est ça.
Est-ce qu'on sait dans quelle mesure, d'ailleurs, il y a un lien presque de commandement entre ce gouvernement d'union nationale et les groupes qui se battent aujourd'hui sur le terrain contre l'armée birmane?
C'est très difficile à dire de l'extérieur. Ce qui est certain, c'est que depuis que l'opération 10-27 a commencé, la diplomatie du NUG est en action et essaye de construire là-dessus donc des accords, on est loin d'être là, mais des discussions au moins avec les pays occidentaux pour obtenir de la reconnaissance et des moyens, si ce n'est au moins des moyens humanitaires. Donc ça, c'est un aspect des choses. Mais sur l'aspect qu'il y a une imitation, par exemple, de ce qu'on fait en Ukraine, je voudrais citer juste une petite anecdote. Quand Zelensky a commencé à se montrer sur toutes les télés du monde en battle dress pour montrer qu'il faisait la guerre, il était en guerre.
Dès le début, en treillis sur les vidéos.
Absolument. On a vu aussi le président du NUG faire une visite sur le front, dans l'État Karen, en battle dress, et communiquer sur les réseaux à partir de ça. Donc on voit qu'il y a, enfin ça c'est un exemple, mais il y en aurait d'autres à citer, on voit qu'il y a une véritable
inspiration.
Ils s'inspirent, ils essayent de faire aussi bien que tout le monde, de se situer à ce niveau-là, ça circule, effectivement.
Guillaume Delangre, on vous a retrouvé. Je rappelle que vous êtes en lien avec nous depuis Bangkok, en Thaïlande. Est-ce que la loi de conscription, qui donc a été promulguée là tout début février, peut démultiplier les effectifs de l'armée birmane? Est-ce qu'ils sont encore nombreux aujourd'hui, les jeunes birmans, qu'elle peut encore mobiliser?
Ils sont nombreux, mais ils fuient en masse. Je pense que La réalité de cette loi de conscription qui va entrer en vigueur dans quelques mois, c'est que ça va provoquer une crise migratoire, particulièrement pour la Thaïlande, qui va être très importante. Il y a déjà plusieurs millions de Birmans qui vivent en Thaïlande, et je pense que, pour avoir parlé avec des membres du gouvernement thaï récemment, c'est une inquiétude que ce que fait son voisin va provoquer, et beaucoup d'amis birmans maintenant sont en train de chercher des moyens à quitter le pays.
Ils n'étaient pas encore partis.
Certains avaient fait le choix de rester, ce qui était déjà un choix courageux. Mais maintenant, c'est entre le coup d'État, la dévaluation de 60% de la monnaie, le conflit permanent, et maintenant cette loi de conscription, il y a un exil massif qui commence, oui.
Cette loi, elle impose un service militaire de 2 ans pour les hommes et les femmes de 18 à 35 ans. On parle de près de 13 millions de personnes potentiellement concernées, Bénédicte Braque de La Perrière. Est-ce que l'armée birmane, déjà on est surpris de voir ces files d'attente devant les consulats, les ambassades ou les services de passeport. On pourrait imaginer que l'armée est à minima dispersée ces foules. Or, elles sont là tous les jours, elles viennent attendre leur passeport. Certains sont délivrés des passeports sont délivrés aussi par centaines, donc c'est assez surprenant de se dire qu'une junte militaire continue à délivrer des passeports, parce que ce n'est pas seulement les consulats et ambassades, si j'ai bien compris, de Thaïlande ou de pays voisins. Donc première question, comment se fait-il que ces jeunes réussissent à obtenir leur sésame pour un exil vers l'étranger? Et est-ce que les contrôles aux frontières ont été renforcés par l'armée birmane pour éviter justement cette fuite en masse?
Les contrôles aux frontières, ils ne peuvent pas, puisqu'ils ont perdu l'accès aux frontières.
Certaines frontières, en tout cas.
Toutes. L'essentiel.
D'accord.
Les contrôles aux frontières, ils peuvent pas. Les consulats et les services qui délivrent les passeports, eh bien, ils continuent à travailler, effectivement. On peut penser que c'est étonnant, mais en même temps, ils payent. Donc, on paye le passeport. Hein. C'est pas une petite somme pour les Birmans. Donc il y a de l'argent qui rentre comme ça dans les coffres de l'État du sac
de l'armée birmane, de la junte. Oui. De l'argent que la population civile ne voit pas revenir en retour. Et Guillaume Delangue, vous avez commencé à évoquer cette confiscation aussi des richesses nationales du pays par l'armée birmane. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du soutien à l'armée au sein de la population birmane, puisque notre série d'émissions s'attache à raconter comment des démocraties ont été confisquées en Asie du Sud? Comment expliquer, par exemple, qu'aux dernières élections, avant le coup d'État, les élections de novembre 2020, tous les partis les plus opposés à la mainmise de l'armée sur le pays avait obtenu en tout 86% des voix? Est-ce que ça veut dire que l'armée n'a même pas au moins essayé d'asseoir sa légitimité en essayant d'œuvrer au bien commun et ou au bien commun ou au bien de certaines catégories de la population birmane?
Je dirais que d'une part, c'est vrai que vous citez le chiffre clé, je crois, pour comprendre. Il y a des coups d'État qui ont lieu partout dans le monde, dans lesquels ceux qui perpétuent le coup d'État représentent quelqu'un dans la population, une partie de la population. Ils ont une sorte d'électorat virtuel dans la population. Ce qui s'est produit en Birmanie, c'est assez différent, parce qu'on a un chiffre. 3 mois avant le coup d'État, on a une élection. 86% des sièges en jeu sont perdus par l'armée et sont gagnés par la Ligue nationale pour la démocratie. Donc on sait que le sentiment est très très féroce. On l'a entendu dans les premiers clips au début de cette émission, la haine envers l'armée est très très forte. Alors bien sûr, il y a tout type de moyens de soutenir la résistance ou d'être relativement passif parce qu'on a tous des contraintes, mais ce sentiment-là est très très fort. Par ailleurs, lorsque vous observez les émissions de lumière nocturne dans les images satellites, vous pouvez tracer la frontière birmane rien qu'à la limite entre là où il y a de la lumière et là où il n'y en a pas. Et c'est là que la Birmanie, elle a beau être entourée de régimes politiques très très différents, de démocratie, de régimes autoritaires en tout genre, ce qui distingue l'armée birmane de beaucoup d'autres pays de la région, c'est que depuis le coup d'État de 1962, elle n'a jamais considéré le développement du pays comme une priorité ou comme un objectif.
Elle a fait construire des routes. Ça vous fait rire, Bénédicte Braque de La Perrière, quand en réalité ce sont plutôt des routes qui lui sont destinées, c'est ça? Vous y êtes allé à Naypyidaw par exemple
Pas cette fois-là, mais d'ailleurs c'est un des points de fragilité de la junte, c'est qu'elle a ces trois zones qui sont encore des zones contrôlées, donc la base Birmanie, le delta avec Rangoon qui est la capitale économique. Naypyidaw qui est isolée au centre et Pyongluing qui est son centre de formation militaire en gros. Toutes ces trois cœurs de la junte sont distants et la route qui relie Naypyidaw à Rangoon est une route qui est fragilisée. C'est une de ces routes qui ont été construites c'est la principale route de Birmanie.
Guillaume Delangre, sur les routes, parce que de nombreuses routes ont été construites quand Naypyidaw, la capitale politique, a été construite de toutes pièces pour devenir la capitale du pays en 2005. De nombreuses routes ont été construites. Il faut en dire un mot, parce que là aussi, a priori, si on regarde dans le détail, rien à voir avec ce qu'on appelle le bien commun, justement. C'est le bien de l'armée qui était pensé déjà à cette époque.
Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que le conflit actuel, c'est à la fois, bien sûr, un conflit pour la démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect des droits des minorités et la paix, mais c'est aussi un conflit pour le droit au développement. C'est le droit, un conflit pour, c'est une demande d'être gouverné par des gens qui veulent vous gouverner, qui veulent le bien commun. Or, cette dimension-là a été absente des motivations des dirigeants birmans pendant de très très nombreuses années.
C'est pourtant en effet la façon dont justifiait son putsch le général, le chef des armées birmanes Min Aung Hlaing, justement en février 2021. C'était au nom de la démocratie, au nom du bien commun qu'il disait agir.
Organiser des élections libres et justes est quelque chose d'essentiel pour la pérennité d'un système démocratique et pluraliste. C'est la raison pour laquelle nous allons opérer différemment de ce que l'armée a pu faire en 1962 et en 1988. Nous allons prendre la tête de l'État car c'est inévitable et indispensable. Mais nous le ferons pour accomplir notre devoir dans le respect du cadre de l'état d'urgence prévu dans la Constitution. Nous allons construire un système démocratique fonctionnel et je serai ravi d'accompagner l'émergence d'un gouvernement élu dans le cadre d'un système multipartiste et démocratique.
C'est vrai qu'il est difficile d'accorder de la crédibilité à un général, à une armée birmane qui se dit aujourd'hui la défenseuse, le défenseur de la démocratie birmane, alors que, et je voulais juste donner ce détail-là, cette ville de Naypyidaw par exemple est traversée par des routes à 22 voies qui permettent d'atterrir, des avions peuvent atterrir en cas de siège. À côté de ça, la Birmanie est l'un des pays les moins dotés au monde en route. Vous parliez, Guillaume Delangre, du taux d'électrification, il était de 50% à peu près au moment du coup d'État. On estime qu'il a chuté à 35% depuis. Alors voilà pour le projet politique de l'armée birmane qui semble inexistant. Quel est le projet politique maintenant des forces rebelles? Est-ce que les forces de défense du peuple, qui sont souvent de jeunes urbains, qui sont partis se battre aussitôt après le coup d'État au nom d'un certain idéal démocratique, Bénédicte Braque de la Perrière, est-ce qu'elles ont les mêmes aspirations que les organisations armées ethniques qui les précèdent depuis de nombreuses années et avec qui elles se battent, aux côtés desquels elles se battent aujourd'hui?
Je voudrais d'abord souligner que la résilience de la résistance est en soi quelque chose qu'il faut souligner. Avoir tenu 3 ans et avoir organisé une opération 10-27, quelle que soit donc la manière dont l'ONUG a été impliqué dans la prise de décision, vraisemblablement pas, mais au moins dans une information qui a circulé. Déjà, c'est des choses qu'il faut souligner. Mais effectivement, le succès de la résistance dépendra de la capacité du NUG à
le négocier. Le gouvernement d'Union nationale, je le redis à chaque fois, en exil.
Le gouvernement d'Union nationale en exil, de la capacité donc de ce gouvernement de négocier avec les forces d'être convaincant dans son inclusivité. Parce que c'est un problème, effectivement, il y a eu des déclarations très rapides, enfin très très immédiates après la formation de ce gouvernement qui est issu hein, de la chambre qui avait été élue
à l'automne.
Il était représentatif quand il s'est formé. Ce gouvernement-là a immédiatement déclaré qu'il fallait travailler de manière inclusive et que la constitution de 2008 était morte et enterrée et qu'il fallait construire une constitution vraiment fédérale. Et une charte a été récemment mise en place, mais disons que les liens politiques en ce moment, la négociation, le travail politique sur ce qui va venir, on a très peu d'accès à ces discussions-là. Il ne semble pas que ce soit très développé et tout est à faire dans ce domaine, je pense.
Il faut rappeler que la Birmanie a pris son indépendance en 1948 du joug britannique, pour le dire vite, qui a proclamé une constitution révolution instaurant plusieurs états ethniques au sein de la Birmanie. Alors d'abord, ils étaient 4, puis 8 en 1974, davantage encore depuis la constitution de 2008. Guillaume Delangre, est-ce qu'aujourd'hui, tous ces groupes ethniques sont d'accord sur le système politique qu'ils voudraient voir advenir en Birmanie, ou il est encore pour eux trop tôt pour en débattre? Et par ailleurs, est-ce que tous défendent un projet fédéraliste où chaque peuple disposerait d'une certaine autonomie, ou défendent d'abord et avant tout, pour certains de ces groupes, des intérêts propres? Puisque vous parliez des extractions de ressources naturelles, on peut aussi se dire que c'est intéressant pour certains groupes d'en avoir aujourd'hui le contrôle.
Absolument. Je dirais, alors d'une part, les points d'accord, c'est d'une part, plus d'armée, plus de rôle politique pour l'armée, dans les institutions birmanes. Ça, c'est le point d'accord de tous les groupes résistants aujourd'hui. Deuxièmement, un accord sur le principe d'une démocratie fédérale. Après, les points de désaccord, c'est d'une part sur la chronologie, c'est-à-dire est-ce que un régime de transition devrait déjà être fédéral ou non, et ensuite sur le type de fédération. Est-ce qu'on veut une confédération qui donnerait beaucoup d'autonomie, ou est-ce qu'on veut un système juste fédéral? Voilà, il y a une négociation à avoir là, particulièrement parce que les ressources naturelles aujourd'hui sont principalement situées dans les zones contrôlées par les armées ethniques qui ont le vent dans le dos. Et donc il va falloir qu'il y ait une discussion difficile entre le gouvernement d'Union nationale, qui aujourd'hui n'a pas de territoire à proprement parler pour lui-même, et ces groupes armés qui, eux, soutiennent le mouvement, jouent un rôle absolument clé, mais qui ne sont pas forcément tous d'accord sur « écoutez, nous, si le Jad, il est chez nous, c'est peut-être d'abord à notre peuple que ça devrait profiter, surtout que vous nous avez pillé nos ressources pendant des années. » Donc voilà, il y a une discussion difficile là.
Et une discussion difficile aussi qu'il faudra avoir avec les forces de défense du peuple, dont il est difficile de dire qu'ils défendent une opinion en particulier, mais qui sont pour beaucoup constitués de Bamar, donc le peuple majoritaire, et qui pour beaucoup encore reste favorable à un État plutôt centralisé. Mais tout s'accorde à dire qu'il est encore trop tôt pour débattre de tout ça, que l'objectif principal reste de se battre contre l'armée birmane avec... Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi ce que la Chine en pense et quelle position aujourd'hui prend la Chine dans cette guerre, dans ce conflit. On en parle avec Bruno Philippe, qu'on va accueillir dans ce studio, juste après le groupe birman Acide. Le groupe birman Acide du chanteur Fio Zeyato, c'était un des pionniers du hip-hop dans son pays, avec des maillots de basket trop larges à la mode américaine. Et en 2015, quand la Birmanie prend le tournant de la démocratie, il devient député dans le parti d'Aung San Suu Kyi. Après le coup d'état militaire du 1er février 2021, Fio Zeyato, donc ce chanteur, a été arrêté par la nouvelle junte au pouvoir. Il a été condamné à mort, exécuté le 23 juillet 2022 avec 3 autres militants. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode d'une série que nous consacrons à l'Asie du Sud-Est et plus généralement du Sud, où les aspirations d'une certaine jeunesse au pluralisme, à des systèmes ouverts, se heurtent à des clans ou des armées qui s'accrochent au pouvoir aujourd'hui en Birmanie, avec nos invités Bénédicte Braque de la Perrière et Guillaume Delangre, et un focus sur la Chine qui n'a pas vraiment choisi son camp au Myanmar, si ce n'est qu'elle veut un voisin stable. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La Chine suit de près le conflit dans le nord du Myanmar et déplore vivement les pertes chinoises causées par le conflit. La Chine a déjà engagé de sérieuses démarches auprès des parties concernées. La Chine demande à nouveau à toutes les parties au conflit de mettre immédiatement fin au combat et de prendre des mesures concrètes pour éviter un nouvel incident préjudiciable qui mettrait en péril la paix dans la zone frontalière entre le Myanmar et la Chine, ainsi que la vie et les biens des Chinois. La Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger la vie et les biens des citoyens chinois.
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, au début de cette année, après que des civils chinois eurent fait les frais des affrontements entre l'armée birmane et des guérillas ethniques à la frontière avec la Chine, Pékin fait pression sur les belligérants tout en maintenant avec chaque camp une certaine ambiguïté. Bonjour Bruno Philippe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la couverture Asie au Monde, ancien correspondant du Monde en Asie du Sud-Est, auteur de Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée, parue aux éditions des Équateurs. D'abord, puisqu'il s'agit de parler des aspirations démocratiques des sociétés d'Asie du Sud-Est, quelle relation a entretenu, à partir de 2015, la Birmanie d'Aung San Suu Kyi et la Chine, dans un régime qualifié de pro-démocratie, Aung San Suu Kyi et le régime chinois?
Des relations très bonnes, paradoxalement, si on considère que Aung San Suu Kyi a été l'icône de la démocratie, l'ancienne dissidente, en résidence surveillée pendant 10 ans, le gouvernement chinois de Xi Jinping a entretenu donc de très bonnes relations avec le gouvernement d'Aung San Suu Kyi pour des raisons évidemment d'investissement, pour des raisons commerciales. Aung San Suu Kyi, il ne faut pas oublier qu'elle a toujours adopté une attitude très pragmatique à l'égard de la Chine. Un jour, je lui ai demandé, elle venait d'être élue, pour quelqu'un qui prenait la démocratie, avoir des relations avec la Chine, c'était pas un peu problématique. Alors elle a souri en disant, vous savez, on ne choisit pas ses voisins.
Elle vous avait répondu ça quand vous l'aviez rencontrée et vous en aviez parlé longuement dans votre livre, Bruno Philippe. Donc rien n'indique a priori, puisque des partenariats avaient été signés entre la Chine et la Birmanie dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Donc rien n'indique a priori que Pékin aurait pu faciliter, soutenir le coup d'État de l'armée birmane le 1er février 2021.
Non, c'est tout à fait improbable. Vous savez, les Chinois ont une relation pragmatique, encore une fois, aux réalités politiques et économiques. La Birmanie est un pays très important pour la Chine. C'est un pays qui est traversé par un gazoduc et un pipeline depuis le golfe du Bengale jusqu'à la frontière chinoise et donc la province du Yunnan. Donc c'est un accès aux hydrocarbures venant du golfe qui est absolument essentiel au cas où, par exemple, il y a une guerre entre la Chine et Taïwan qui bloque le détroit de Malacca. Donc l'accès au golfe du Bengale pour la Chine est absolument essentiel, sans parler des dizaines de milliards d'investissements que les Chinois ont fait en Birmanie depuis des années. Donc quel que soit le régime au pouvoir en Birmanie, il faut que la Chine s'en accommode.
La Chine qui dit ne vouloir que la stabilité de son voisin, que c'est son maître mot, elle se dit régulièrement très préoccupée par la prolifération de groupes criminels à la frontière birmane et que la junte aurait laissé proliférer depuis 3 ans. Elle lui en veut beaucoup pour ça. De quoi parle-t-elle? Qu'est-ce que c'est que ces groupes criminels qui ont proliféré à la frontière?
Dans la zone Kokang, dont l'ethnie qui a donc gagné cette guerre locale au mois d'octobre, cette opération, il y avait avant c'est une milice, si vous voulez, qui s'est scindé et une partie de cette milice a collaboré avec le régime birman et il y a eu une prolifération de hackers, d'arnaques en ligne, d'informaticiens qui ont utilisé la capitale du Kokang comme une sorte de base pour tout un tas d'arnaques que l'on voit se développer dans le monde entier et qui étaient particulièrement importantes là-bas et qui impliquaient un certain nombre de Chinois, y compris certains d'entre eux qui avaient été kidnappés par ces organisations mafieuses et qui donc ont été depuis libérés.
C'est-à-dire, la Birmanie, enfin ces clans faisaient miroiter à des Chinois une vie meilleure, au Cambodge beaucoup, mais en Birmanie aussi, les faisaient venir, les enlevaient, les kidnappaient et les faisaient donc passer ces coups de fil ou textos d'arnaque.
C'est d'ailleurs effectivement, comme vous le dites, c'est pas seulement un problème qui est limité à la Birmanie et qui n'est pas seulement limité à cette zone de Birmanie. Il y a d'autres points de frontière entre la Chine et la Birmanie où vous avez des mafieux et donc parfois, par exemple, des casinos où parfois des Chinois viennent jouer clandestinement et sont kidnappés parce qu'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes une fois qu'ils ont perdu des sommes colossales au casino et qui sont parfois des gens du Parti communiste chinois, ce qui pose effectivement quelques petits problèmes.
En novembre, ont été arrêtés plus de 30 000 de ces escrocs présumés des réseaux de télécommunications. C'est comme ça que le régime chinois les dépeint. Donc 30 000, c'est énorme, dont trois frères du clan Ming. Apparemment, ils sont très connus là-bas. Qui sont-ils d'abord et est-ce qu'ils ont été arrêtés par l'armée birmane, puis livrés à Pékin ou directement par l'armée chinoise qui fait des excursions sur le territoire birman?
Non, l'armée chinoise ne fait pas d'excursions sur le territoire birman. Ils ont été libérés par cette armée des Kokang. Alors, il faut rappeler que les Kokang, c'est une ethnie birmane, mais de langue chinoise, mandarine, et qui sont des Han, en fait, qui sont des Chinois ethniques, mais qui sont inclus dans l'État Shan, qui est ce grand État du nord-est de la Birmanie, frontalier avec le Chinois, avec la Chine. Ce qu'il faut rappeler, ce qui est mon avis essentiel sur le plan historique, c'est que la relation entre la Chine et les juntes militaires au pouvoir à Rangoon, avant que Dan Aipido devienne la capitale, ont toujours été mauvaises. Dans les années 60, vous aviez une guérilla communiste soutenue par la Chine maoïste qui ferraillait contre l'armée birmane, la junte militaire de l'époque du général Ne Win. Et donc, les relations entre, au plus haut niveau de la hiérarchie militaire et de la Chine ont toujours été déplorables. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, pour les Chinois, la Birmanie est un pays essentiel. Donc, ils étaient proches d'Aung San Suu Kyi quand elle était au pouvoir. Ils ont été très mécontents de ce coup d'État qui, vous l'avez dit aussi, provoque une instabilité régionale qui a des répercussions pour la Chine. Mais ils doivent s'en accommoder. Parce que la Chine a un triple intérêt par rapport à la Birmanie, un intérêt de sécurisation de ses frontières, un intérêt économique avec, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'investissements et un intérêt géopolitique parce que ces ethnies, ces groupes ethniques armés, donc les Kokang, les Kachin, les Tahang, sont les Wa. Donc toutes ces ethnies minoritaires qui sont sur le pourtour, sur les franges de l'Empire du Milieu, ont des bases qui sont sur la frontière. Et donc les Chinois les utilisent, les instrumentalisent comme une sorte de levier de négociation ou de pression contre le régime de Rangoon. Donc c'est un peu, ça n'empêche pas la Chine de continuer à fournir de l'approvisionnement militaire à la junte. Mais la Chine joue toujours sur deux tableaux. La Chine a toujours deux fers au feu.
Elle continue à approvisionner la junte en matériel militaire et à l'inverse, enfin, dans le même temps, elle bloque son accès à plus d'un demi-milliard de dollars qu'elle lui doit pour ses achats de gaz birman. La Chine a acheté du gaz birman, mais n'a toujours pas payé pour l'instant l'armée birmane. Est-ce que c'est de nature à assécher de l'intérieur cette armée?
Je ne crois pas, non, non. Je crois que là, c'est un petit peu tôt pour le dire.
Et c'est déjà arrivé dans le passé que la Chine utilise de tels moyens de pression face au régime birman?
Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, non. Mais ce qui est sûr, c'est que la Chine est très inquiète de la tournure que prennent les événements, parce qu'on voit tout de même que le régime de Minh Aung Hlaing est sinon au bord de l'effondrement, en tout cas dans une posture très fâcheuse. Il faut rappeler que jamais une junte militaire birmane depuis le premier coup d'État de 1962 a été dans une telle situation. Même si dans les années 49-50, la guérilla Karen était aux portes de Rangoon, déjà, et menaçait le gouvernement birman de l'époque. Mais jamais la junte est arrivée, était placée dans une situation où collectivement, partout sur le pays, partout sur le territoire, elle est menacée.
Dans certaines régions proches de la Chine, certaines régions birmanes, Pékin a réussi à obtenir un cessez-le-feu. Est-ce que ça tient? En échange de quoi l'a-t-elle obtenu? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces cessez-le-feu qui ont été négociés, j'imagine, directement avec certaines de ces guérillas ethniques sinophones? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Bruno Philippe?
D'abord, le cessez-le-feu, apparemment, il tient. Il a été négocié après l'opération dont on a parlé tout à l'heure en pays Kokang. Donc, il a été négocié avec les Kokang, mais aussi avec ce qu'on appelle la fraternité, c'est-à-dire qui regroupe trois ethnies minoritaires différentes, les Kokang, les Tahang et les Arakanais. Donc ça, l'Arakan, c'est cet État qui est situé sur la frontière du Bangladesh. Donc le cessez-le-feu, effectivement, tient. Il a été négocié pour des raisons que j'expliquais auparavant, c'est-à-dire que la Chine jouit exerce sur ses ethnies minoritaires armées une influence déterminante.
Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous disiez tout à l'heure que non, l'armée chinoise ne fait jamais d'incursion sur le territoire birman, en revanche elle a des moyens de pression, elle peut jouer du canon juste à la frontière pour faire peur. Est-ce qu'aujourd'hui la Chine est en mesure d'intimider chaque partie pour dire attention, si vraiment ce conflit déborde ou n'est plus du tout maîtrisable, nous interviendrons?
Je vois mal la Chine intervenir militairement en Birmanie. Ce qui est sûr, c'est que ces ethnies, ces groupes armés ont des bases à la fois militaires et les sièges de leurs partis politiques sur la frontière. Les Chinois ont procédé dernièrement à des manœuvres militaires sur la frontière, donc c'est un signe évidemment clair que l'armée chinoise est là, mais elle n'a pas besoin d'intervenir sur le territoire birman. Et d'ailleurs, elle ne le fera pas, parce que ça serait... Là, ça serait quand même très compliqué dans leur rapport, dans l'équilibre, si vous voulez, qu'ils veulent toujours maintenir. Vous savez, la stratégie chinoise, c'est toujours une question d'équilibre. Donc, ça romprait cet équilibre-là. Non, c'est toujours, on joue sur les deux tableaux.
Et pour conclure, pour ces organisations ethniques-là, qui ont un certain soutien de la Chine, ou alors la Chine ferme les yeux sur ce qui s'y passe, enfin, ça dépend bien sûr aussi des endroits, mais est-ce qu'on peut parler de liens presque politiques si ces organisations armées ethniques ont des relations privilégiées avec Pékin? Est-ce que ça dit quelque chose de leur propre aspiration à la démocratie? Même question que vous aviez posée à l'époque à Aung San Suu Kyi, où ça n'a rien à voir. Là, on est pour l'instant dans un objectif qui est de faire tomber la junte.
Oui, je pense pas qu'il y ait à l'intérieur des organisations armées ethniques une véritable démocratie. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Ce sont des clans, souvent, ce sont des familles, ce sont des gens qui combattent, pour certains, comme les Karen, cet état situé sur la frontière thaïlandaise depuis 70 ans. Alors, bien évidemment, il y a un comité, il y a un bureau politique, d'ailleurs, il y a une représentation interne qui est de l'ordre de l'élection, mais de dire que ce sont des gens... Je crois que ce sont des gens, quelles que soient les ethnies minoritaires en Birmanie, je pense qu'ils aspirent à la justice, ils aspirent à la représentation au sein de l'Union, puisque le nom officiel, c'est l'Union du Myanmar. C'est évidemment une désunion plus qu'une union, puisqu'ils ne sont jamais arrivés à construire un État-nation. Mais je crois que c'est avant tout, c'est une revendication nationale au sens de l'ethnie. La démocratie, on en parlera peut-être un peu après.
Merci beaucoup à vous trois. Vous aviez en commun, en effet, ce constat-là. Merci d'être venu nous en parler, Bruno Philippe, responsable de la couverture Asie au Monde, ancien correspondant du Monde en Asie du Sud-Est. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions des Équateurs, Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée. Aung San Suu Kyi, que la Chine a demandé publiquement à rencontrer depuis aujourd'hui sa prison. On verra si Pékin obtient cette faveur de la part du régime birman. Je ne sais pas à combien de reprises elle l'a formulé, mais c'est vous, Guillaume Delangue, qui le racontiez dans un long article que vous avez publié dans la revue Conflit. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume Delangue. Je rappelle que vous êtes doctorant en géographie de l'environnement à l'Université d'Oxford et ancien conseiller à l'énergie du gouvernement civil birman. Merci beaucoup, Bénédicte Braque de la Perrière, également d'avoir été avec nous, anthropologue au CNRS et membre du laboratoire Asie du Sud-Est. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le gouvernement haïtien vient de décréter l'état d'urgence et un couvre-feu, Catherine, après l'évasion de prisonniers dangereux.
Les autorités veulent reprendre Port-au-Prince, capitale assiégée, s'indigne le journal haïtien Le National. Si les bandes armées contrôlaient déjà 80% de Port-au-Prince, selon la BBC, depuis jeudi dernier, la situation a empiré. Les gangs ont fait parler la poudre et laissé derrière eux un cortège de feu, de sang, de cadavres, de dommages inestimables et de peur, déplore le Nouvelliste. Le quotidien haïtien, ainsi que la BBC et Radio-Canada, expliquent comment des groupes criminels ennemis jurés ont décidé de s'unir la semaine dernière pour chasser du pouvoir le Premier ministre Ariel Henry alors qu'il se rendait au Kenya pour signer un accord sur le déploiement d'un millier de policiers kényans dans le pays des Caraïbes dans le cadre d'une mission internationale soutenue par l'ONU. Un ancien policier devenu chef de gang, Jimmy Cherizier alias Barbecue, a expliqué vouloir empêcher le retour d'Ariel Henry de Nairobi, indique le Guardian. Jeudi donc, ces gangs armés ont attaqué méthodiquement des sites stratégiques. Ils ont incendié des commissariats afin de disperser les forces de l'ordre, analyse le Nouvelliste, et de s'en prendre ensuite aux deux plus grandes prisons d'Haïti. Près de 4000 détenus se sont évadés du pénitencier national de Port-au-Prince dans la nuit de samedi à dimanche, et puis les gangs ont aussi libéré violemment 1500 criminels de la prison de la Croix des Bouquets à l'est de la capitale. Parmi les évadés figurent des détenus inculpés pour l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021, mais 90 anciens soldats colombiens, emprisonnés eux aussi pour ce meurtre, ont préféré rester dans leurs cellules de peur d'être tués, d'être pris dans des tirs croisés, indiquent la BBC et El País. Une dizaine de détenus, au moins, sont morts néanmoins lors de ces évasions violentes. 5 policiers tués, par ailleurs, depuis jeudi, estime Radio-Canada. De quoi démoraliser un peu plus les troupes alors que la police haïtienne compte environ 9000 agents, note le Guardian, pour assurer la sécurité de plus de 11 millions de personnes. Démoralisés et démunis, relève Al Jazeera. Des syndicats de policiers en sont réduits à acheter eux-mêmes des gilets pare-balles. Jean-Daniel Senna, journaliste au Nouvelliste à Port-au-Prince, décrit la situation sur Radio-Canada.
On a l'impression que la police nationale d'Haïti est en train de perdre la bataille psychologique et les gens, ils ont besoin d'être rassurés.
En Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, rappelle la BBC. 8400 personnes ont été victimes des gangs l'an dernier, c'est 2 fois plus qu'en 2022. Alors qu'aucune élection ne s'est tenue dans le pays des Caraïbes depuis 2016, note la BBC, le Premier ministre Ariel Henry devait se retirer le 7 février dernier, mais il ne l'a pas fait. À cette phase, conclut un éditorialiste du quotidien haïtien Le National, la honte devrait envahir les élites qui, par leur insouciance et leur mesquinerie, ont conduit le pays à ce chaos.
Depuis les États-Unis, Catherine, la vice-présidente Kamala Harris, appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Dans ce qui constitue la critique la plus virulente à ce jour de la part de l'administration américaine contre Israël, souligne le New York Times, mais aussi le Times of Israel ou encore le Guardian, Kamala Harris estime que le gouvernement Netanyahou doit en faire davantage pour augmenter le flux d'aide humanitaire alors que l'enclave palestinienne est menacée de famine.
Let's reunite the hostages with their families and given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire.
Il faut un cessez-le-feu immédiat compte tenu de l'ampleur des souffrances à Gaza, a expliqué la vice-présidente américaine Kamala Harris, très applaudie hier lors de son discours dans l'Alabama. Il faut aussi, dit-elle, que les otages retrouvent leurs familles. Un cessez-le-feu pour les 6 prochaines semaines au moins est sur la table et le Hamas, qui prétend vouloir un accord, doit examiner ce cessez-le-feu, a insisté Kamala Harris.
Et alors, que signifie ce changement de ton, Catherine, de l'administration, du gouvernement américain?
Le New York Times et le journal israélien Haaretz sont catégoriques. Les propos de Kamala Harris traduisent la frustration grandissante de l'administration Biden face à Israël, d'autant plus après la mort d'une centaine de Palestiniens jeudi dernier. Si les médias israéliens sont passés à autre chose, relève le quotidien de gauche Haaretz, pour la communauté internationale, Israël est désormais le principal responsable de l'immense souffrance des habitants de Gaza. Et les attaques terroristes commises par le Hamas le 7 octobre ne justifie pas toujours, selon Haaretz, son comportement actuel. Des centaines de milliers de Palestiniens errent assoiffés et affamés, vivant de graines pour volailles, d'herbes et d'eau contaminées, poursuit le quotidien israélien de gauche. Les États-Unis et la Jordanie ont d'ailleurs parachuté samedi 38 000 repas dans Gaza, rappelle CNN, mais c'est une goutte d'eau dans un océan de souffrance, selon la chaîne qatari Al Jazeera. Et le journal Haaretz rappelle, depuis Tel Aviv, que la guerre à Gaza a nui, par ailleurs, à Joe Biden auprès des électeurs de gauche aux États-Unis, à 8 mois de la présidentielle, alors qu'il cherche à se faire réélire cette année, pour montrer que l'administration Biden prépare l'après-guerre à Gaza, voire l'après-Netanyahou en Israël, remarque la BBC et le Times of Israel. Kamala Harris doit rencontrer aujourd'hui à Washington le ministre israélien Benny Gantz, principal rival politique de Benjamin Netanyahou, une rencontre qui a rendu fou furieux le premier ministre israélien.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.